Christelle Bakima-Punza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes passionnée de mode depuis longtemps et vous publiez Corps noir. On peut dire que c'est un essai qui s'interroge sur la place des corps noirs féminins dans la mode.
Exactement, c'est exactement ça et j'explore ces questions sous différents angles.
Et c'est un sujet qui parfois provoque un certain malaise ?
Oui, à la fois dans l'industrie de la mode, mais aussi dans la société française. Oser parler de corps noir et de ce que ça signifie d'être dans l'espace, c'est toujours assez épineux, mais j'ai voulu écrire ce livre justement pour que ça le devienne de moins en moins.
J'aime beaucoup une phrase au début, vous dites « Dans une société pour laquelle Barack Obama est noir et Meghan Markle est métisse, aborder le sujet ne va pas être de tout repos. »
Bah ouais, c'est ce que je me suis dit parce que on a du mal en France à nommer les choses, particulièrement sur les questions raciales. Moi, je pense qu'il faut les nommer pour justement les dépasser et pas rester dans un entre-deux où on ne sait pas vraiment comment faire, où les gens ont les conséquences de leur couleur de peau, mais on parle pas du reste en fait.
Le constat pour vous, c'est donc qu'il n'y a pas assez de corps noirs dans la mode.
Il y a à la fois pas assez de corps noirs dans la mode, ils sont pas assez présents dans tout type de campagne, mais à la fois, quand ils sont présents, ils sont utilisés d'une manière que je trouve très problématique. Ça va être pour des campagnes été, forcément. Ça va être pour permettre à la mode de s'ancrer dans un narratif de la mode sauve des vies et donc va prendre des filles en Afrique, au Sud-Soudan, pour devenir mannequin. Donc même la manière dont c'est utilisé aujourd'hui, ça questionne beaucoup notre rapport au corps noir et à cette société.
Vous dites les saisons été, parce que ça on l'entend parfois, noir ça veut dire exotisme.
Voilà, noir ça veut dire exotisme, on reprend des imaginaires coloniaux de la fin du 19e siècle et on se rend pas compte qu'on reproduit exactement parfois les mêmes types d'images qu'on a pu voir carte postale envoyée du Congo central en 1840, quoi.
Et ça n'a pas changé au cours des dernières années ?
Alors, ça a changé, mais je dirais que ça s'est plutôt transformé. Des imaginaires qu'on a pu voir dans les années 80 avec une Grace Jones ou une mannequin Naomi Campbell qui court comme une panthère dans la savane, on continue à en voir aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus subtile. Mais il y en a aussi moins parce qu'il y a aussi des personnes dans la mode qui sont conscientes de ça, qui peuvent être des personnes noires ou non et qui n'ont pas envie de reproduire ce qui a déjà été fait avant et qui cherchent à réinventer quelque chose de nouveau.
Dans votre livre, vous évoquez la bataille de Versailles en 1973. De quoi s'agit-il ?
En fait, la bataille de Versailles, ça a été un moment très important pour permettre la restauration du château de Versailles, qui à l'époque rencontrait beaucoup de problèmes financiers. Donc ça a été en fait un événement caritatif où à la fois des personnes de la haute société française, mais aussi américaine, se sont réunies en proposant une sorte de bataille. Donc en fait, c'était un défilé où il y avait une partie des designers français et de l'autre côté des designers américains qui s'affrontaient. Et ça a été un moment historique hyper important parce que ça a été aussi la rencontre entre deux mondes, le monde de la haute couture française et le monde du prêt-à-porter américain qui était vers quelque chose de beaucoup plus nouveau. Et la spécificité de ça, c'est que parmi le casting des mannequins américaines, il y avait 11 femmes noires et aucune femme noire côté français. Et c'était à la fois un choc visuel, je pense, pour les Français qui étaient présents, les designers, les personnes de la haute société, et à la fois une démonstration de ce qui est possible de faire lors d'un défilé de mode qui va au-delà de la simple présentation, mais du divertissement, de l'entertainment. Et on doit beaucoup à cet événement aujourd'hui pour la Fashion Week, en fait.
Et maintenant, vous le dites quand même, malgré cela, pour faire carrière, une mannequin noire doit plutôt aller aux États-Unis.
Elle doit plutôt aller aux États-Unis parce qu'elle est rarement perçue comme prestigieuse en France, mais c'est aussi un problème que les mannequins noirs américaines rencontrent chez elles. Beaucoup de mannequins noirs américaines font carrière en France, en tout cas montent leur carrière en France, et ça montre qu'il y a un véritable problème pour chacun des territoires à faire la promotion de nouveaux profils qui viennent de chez nous. Donc oui, il y a énormément de mannequins français, je pensais à Cindy Bruna, Anaïs Mali, aujourd'hui qui sont des mannequins qui ont explosé aux États-Unis, qui sont revenus en France, mais qui n'ont toujours pas le statut qu'elles auraient eu par rapport à d'autres mannequins blanches françaises, par exemple.
Vous avez évoqué tout à l'heure Naomi Campbell. Est-ce que son succès planétaire dans les années 80 a ouvert la voie aux autres mannequins noirs ?
Oui, son succès a ouvert la voie parce que le simple fait que toutes les marques la voulaient mais ne pouvaient pas l'avoir, il y a eu des demandes qui ont été très simples de « je ne peux pas avoir ma Naomi Campbell ». et on demande aux agences de trouver un équivalent d'une Naomi Campbell. Donc en fait, en termes de marché, ça ouvre un marché à d'autres mannequins noirs, donc ça permet des opportunités. Mais le problème là-dedans, il est aussi, parfois la paresse intellectuelle de l'industrie de se dire, plutôt qu'aller chercher plein de profils de femmes noires différentes, on veut juste notre Naomi et on va demander jusqu'à ce qu'on ait une Naomi. Et c'est des choses qui se reproduisent aujourd'hui avec d'autres mannequins comme Adou Takesh, par exemple.
Mais quand vous avez cité tout à l'heure les Sud-Soudanaises, par exemple, il y a quand même une recherche d'un physique peut-être moins européanisé.
Oui, il y a la recherche d'un physique moins européanisé, c'est sûr. Par rapport à une Naomi Campbell, on est moins sur des profils de femmes aux cheveux longs, lisses, des traits assez fins, entre guillemets, eurocentrés. Mais l'autre problème, et il y a une enquête qui est sortie hier dans le Times, je crois, qui parle de ce problème de se greffer d'un profil à un autre et de, en fait, créer aussi des scandales que je pourrais qualifier d'humanitaires ou de trafic d'êtres humains, d'aller en fait dans des camps de réfugiés au Sud-Soudan et au Kenya et de se dire bon bah moi je suis une agence et je cherche ce type de profil et je vais trouver ce type de profil, faire venir les filles pour une ou deux fashion week, un ou deux défilés et après les renvoyer chez elles avec parfois des dettes. Donc ça pose aussi un problème, c'est bien beau entre guillemets les volontés de diversité et inclusion, mais si c'est pour créer derrière ce type de trafic d'êtres humains, véritablement, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser.
Vous évoquez le racisme passif comme lors d'une séance de photo où la photographe demande un sourire africain. Ça, c'était quand ?
Ça, c'était au milieu des années 2010 pour une du magazine L'Officiel. Et en fait, ça démontre ce qui se passe la plupart du temps. Même quand les mannequins vont être choisis pour des castings, elles peuvent recevoir ce type de réflexion. Fais le sourire africain, aie l'air d'une panthère, bombe un peu plus le torse, la poitrine, aie l'air un peu plus bestial. Donc en fait, c'est tout ça que ces mannequins-là se reçoivent et qui sont des remarques que les femmes noires peuvent recevoir dans la société française, mais de manière beaucoup plus subtile ou cachée, là où dans le mannequinat, le racisme est très direct, en fait, parce qu'il fait partie de la manière dont on conçoit la préparation d'une image.
Vous évoquez la question des cheveux, là encore comme une question d'oppression, parce que lorsqu'un mannequin arrive pour une séance de photo, en gros, il n'y a pas de coiffeur qui sache s'occuper des cheveux noirs.
Des cheveux crépus. Oui, bien sûr, c'est un problème aussi parce que ça démontre encore une fois que quand bien même on prend ces mannequins-là, on va pas réadapter l'espace pour elle. Et donc, pour une marque, se dire, je décide de travailler avec une mannequin noire, mais en fait, j'ai aucun coiffeur qui sait coiffer ses cheveux ou j'ai aucune maquilleuse qui sait maquiller sa peau. Moi, je dis aussi aux marques, en faisant ça, vous perdez beaucoup d'argent. Ça veut dire que vous êtes en train d'embaucher quelqu'un dont le résultat ne sera pas exceptionnel puisque la mise en beauté ne sera pas complète. Et en fait, vous faites la moitié du travail. Et de l'autre côté, pour les filles en elles-mêmes, ça crée un énorme malaise de se dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait là puisqu'on a été choisi, mais que personne ne peut s'occuper de nous. Et donc moi, il y a des mannequins qui m'ont dit, moi, il m'est arrivé de quitter une séance photo parce que personne ne pouvait rien faire pour moi. Et moi, je suis ni coiffeuse ni maquilleuse pour proposer une mise en beauté exceptionnelle et de se dire, ben, je suis partie et finalement je suis passée pour entre guillemets la méchante ou la mal élevée parce qu'on m'a dit on part pas d'un shooting comme ça.
Il y a des choses qui ont changé au cinéma. On s'est rendu compte aussi que de mettre beaucoup d'acteurs noirs, voire uniquement des acteurs noirs, ça peut faire un très grand succès. Est-ce que ça peut pas faire bouger les choses dans la mode?
Je pense que on l'a vu depuis 3 à 4 ans, il y a énormément de couvertures de magazines où en couverture on a des femmes noires, des mannequins noirs, des séances photos, des campagnes, et on le voit, ça vend, mais moi je pense que c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est dans les coulisses, dans les équipes des rédactions des magazines de mode, dans les maisons de mode, enfin dans toute l'industrie, dans les coulisses. Moi je pense que on crée des images qui nous ressemblent au global dans une société, et que c'est pour ça en fait que je dis que il faut dépasser la représentation. Moi, une image de mode, aujourd'hui, je sais l'analyser. Donc, je me dis aussi, c'est très beau cette couverture. Mais en fait, les conditions dans lesquelles ça a été fait derrière et les raisons, si elles sont pas, humaines, humanistes, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Donc, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est en marche, mais c'est des questionnements qui nécessite une remise en question au global de la société, parce que c'est le travail des écoles, ça va être le travail même de collectivités territoriales, la mixité sociale très très tôt, et que c'est pas que la mode qui peut porter cette responsabilité en fait.
Christelle Bakima-Punza, merci. Je rappelle le titre de votre essai, Corps noir, publié chez Les Insolentes.
Merci.